Mitzvah positive numéro 43. Mitzvah assez, lissa isha, lifrot velirbot. Mitzvah positive de se marier avec une femme pour avoir des enfants. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer lehem Elokim, peru urvu. Dieu leur a dit, croissez et multipliez-vous. L'homme devient obligé de cette mitzvah à partir de l'âge de 18 ans. Et s'il a laissé passer du temps, il a dépassé 20 ans et il ne s'est pas encore marié, alors là, à partir de là, il transgresse cette mitzvah positive. Si maintenant, il s'occupe d'étudier la Torah et il craint que s'il se marie, ça va l'obliger de devoir arrêter ses études car il va être préoccupé par des soucis de parnassa, alors il a le droit de retarder le mariage et au maximum pas plus que l'âge de 25 ans. Alors, je rajoute que j'ai entendu au nom du Rav Dreyfus, qui est un Rav francophone qui habite Bnei Brak, que si des jeunes gens veulent se marier, même s'ils n'ont pas de situation, il faut les marier. Car il existe beaucoup de cas où les parents ont dit d'attendre quelques années et les enfants, finalement, se sont retrouvés avec des non-juives. Donc, par rapport à cette mitzvah, il faut dire qu'elle ne concerne que les hommes. Seuls les hommes sont obligés, d'après la Torah, de se marier. Les femmes n'ont pas cette obligation. Aussi, il faut préciser que dès qu'un homme a au moins un garçon et une fille, il a accompli cette mitzvah. Mais il y a quand même une mitzvah, midérabanan, d'après les Chachamim, d'essayer d'avoir le plus d'enfants possible. Et même d'ailleurs, si un homme a eu déjà un garçon et une fille, et ne s'est divorcé par exemple, il n'a pas le droit de rester sans femme et il doit chercher à se marier avec une femme qui est censée pouvoir avoir des enfants dans la mesure du possible. Il doit chercher cela. Également, on précisera que toute utilisation de moyens contraceptifs doit être soumise à l'approbation d'un rav qui dans certains cas le permettra et dans d'autres non. Ouvrons une petite parenthèse sur le système des shidduchim, donc des rencontres dans le but de se marier. Ce qu'il faut dire, il me semble, c'est deux choses principales. D'abord, le grand principe, c'est qu'il ne faut pas rencontrer soi-même, son futur époux, sa future épouse. Il faut passer normalement par ses parents, s'ils sont religieux, parce que s'ils ne le sont pas, évidemment, ils vont choisir dans un cadre de personnes qui ne correspondent pas à la halakha. Donc, s'ils sont religieux, passer par ses parents, sinon par son rav, un rav en qui on a confiance. Pourquoi ? Parce que la nature humaine étant ainsi faite que l'être humain est faible, et s'il voit son futur donc conjoint, c'est terminé, s'il lui plaît, ensuite l'amour rend aveugle et même si on essaiera de le raisonner par la suite pour lui dire que ça ne correspond pas, il n'écoutera pas. Et il ira à la catastrophe. Donc il faut absolument rester objectif le maximum de temps possible. Et pour cela, il faut passer par une tierce personne qui, elle, est objective, c'est-à-dire les parents ou le rav, dans un premier temps. Donc eux, déjà, vont prendre les renseignements sur cette personne. Et ce n'est que si les renseignements sont concluants que la rencontre sera alors décidée. Et en effet, le but de la rencontre, il aura juste besoin d'éclaircir est-ce que les personnes se plaisent ou pas. Mais déjà, au moins, les renseignements auront été pris. Et donc, ça évitera ce premier écueil. Deuxième principe, il me semble important de dire, c'est que dans la prise des renseignements, il ne faut absolument pas se contenter de ce qu'on entend, de ce que les gens disent. Ce n'est que, évidemment, un point de départ, mais il faut absolument envoyer des gens observer, réellement observer la personne. S'il s'agit d'un bachour, d'un jeune homme, il faut envoyer des gens l'observer, prier. Vient-il à l'heure? Comment prie-t-il? Est-ce qu'il parle pendant la défila? Comment étudie-t-il la Torah? Est-ce qu'il est sérieux? Comment il marche? Comment il mange? Il faut absolument l'observer, ne pas se contenter des renseignements qui ont été pris, ce n'est qu'un point de départ. Et enfin, troisième point qui me semble important de préciser, c'est que dans la recherche de renseignements, il ne faut pas se renseigner que sur le futur conjoint, mais également sur sa famille. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que les midot, les traits de caractère, se transmettent donc de manière héréditaire. Et donc, on doit tenir compte de cela par rapport aux enfants qu'on va avoir avec cette personne, de savoir que s'il y a telle et telle mida dans telle et telle famille, ça risque de se revenir dans la génération suivante. Et ça, il faut en tenir compte. Nous avons terminé donc la mitzvah positive numéro 43. Mitzvah positive numéro 44. Mitzvah assez, lissa isha bekidushin. Donc mitzvah positive de se marier avec une femme avec des kiddushin. On va expliquer ce que ça veut dire. Donc chez Neymar, comme il est dit, kikar ishisha, les kiddushin. Donc ça veut dire sanctification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit acquérir, entre guillemets, la femme en lui donnant un objet de valeur, d'une certaine valeur. Donc évidemment, c'est une bague en or sous la roupa. Et il lui dit, Areat mekudeshetli, basé kedat Moshe ve Israël, tu m'es sanctifié, tu m'es réservé, ça veut dire uniquement à moi, par cet objet que je te donne, comme la loi de Moshe et Israël. Et il faut que cela se passe devant des témoins, deux témoins kasher, donc deux témoins shomer mitzvot, et qui ne soient pas bien sûr des proches l'un de l'autre, ou bien des proches des mariés, parce que s'il n'y a pas de témoins, ce n'est pas valide. Et à partir du moment où les kiddushin ont été reçus par la femme, eh bien, il faut savoir qu'elle a presque un statut de femme mariée, c'est-à-dire que même si après ils ne sont pas vraiment mariés, mais elle doit recevoir un guet de lui si elle veut se remarier à l'extérieur. Un guet, c'est-à-dire un acte de divorce religieux. Parce que si elle se remarie comme ça, sans avoir reçu un guet de lui, après qu'elle ait reçu les kiddushin de lui, eh bien, Chas v'shalom, ces enfants qu'elle aura du deuxième mari seront des mamzerim, ils seront interdits de se marier avec des femmes juives, parce que ce sont des enfants donc qui sont considérés comme nés d'une union incestueuse, dans la mesure où elle est attachée au premier mari, donc c'est comme si elle avait trompé son premier mari et était partie avec un deuxième si elle n'a pas reçu le guet entre-temps. Et il ramène le Chafetz Chaim qu'avant les Kiddushin, il y a une bénédiction à faire, Birkat Eroussin, donc qui est Asher Kideshanu, Hashem nous a ordonné, Bemizotav et Tsivanu par ses commandements, à la Arayot, sur tout ce qui est les lois de la nudité, Vasarlanu et à Arusot, il nous a interdit donc les femmes qui sont uniquement fiancées par les Kiddushin, parce que ça ne suffit pas pour la permettre, il faut maintenant aussi aller des Rubav et Kiddushin, Viterlanu et Anesuotanu, aller des Rubav et Kiddushin, il nous a permis finalement les femmes qui nous sont mariées par les Kiddushin, mais aussi la Rupa. La Rupa et les Kiddushin. Et il termine en disant, Baruch Hashem, Mekadesh, Amo Israël, Alidei Chupa et Kiddushin, béni soit Hashem, qui sanctifie son peuple Israël par la Chupa et les Kiddushin. Et il continue en disant, le Chafetz Chaim, il ramène, que donc, dès lors que la femme a reçu donc, les Kiddushin, il n'a pour autant pas le droit donc, de cohabiter avec elle, tant qu'elle n'est pas passée sous la Chupa, et ils ont béni les sept bénédictions, Sheva Brachot. Et il faut savoir que, avant de rentrer dans la roupa, il faut absolument écrire une ketouva. Une ketouva, c'est-à-dire un contrat de mariage qui définit les droits et les obligations du mari et de la femme, et que cette ketouva, elle doit rester absolument chez les époux tout le temps. Parce que sans ketouva, si la ketouva a été perdue, et alors il faut absolument en réécrire une autre, parce qu'ils n'ont pas le droit de cohabiter ensemble tant que la ketouva n'est pas présente dans la maison. Et donc, après qu'elle ait reçu cette bague, on a fait cette bénédiction, ils sont rentrés dans la choupa, ils ont fait les Sheva Brachot, ils ont lu la Ketouba. Dans ce cas-là, elle est réellement mariée pour de bon. Cela s'applique en tout lieu et toute époque. Et nous dit le Chafetz Chaim que qui veut divorcer sa femme, il y a donc des cas dans la halakha qui sont énumérés, qui permettent de divorcer dans certains cas, et qui sont d'ailleurs différents selon ce qu'il s'agit du premier zivoug ou du deuxième zivoug, c'est-à-dire d'un premier mariage ou d'un deuxième mariage, parce que dans la halakha, le premier mariage est plus difficile à casser que le deuxième, d'un point de vue conseil de la Torah, bien sûr, parce que il y a des cas très précis seulement où un homme peut divorcer dans le premier mariage, alors que dans le deuxième mariage, c'est plus facile. Alors, il faut savoir que s'ils veulent divorcer, il faut absolument que ça se fasse par un guet, par un acte de divorce religieux, qui se fait bien sûr par des rabbanim compétents. Il ne suffit absolument pas d'un acte de divorce civil. Ça ne vaut rien au regard de la Torah. Ils sont considérés toujours comme mariés. Et il nous dit le Chafetz Chaim que tout celui qui ne connaît pas parfaitement les lois des guittines, car il y a des rabbanim spécialisés dans ce domaine-là, même si ce sont des gens qui sont Talmid Chacham, qui connaissent bien la Torah de manière générale, malgré tout, ne doivent absolument pas s'occuper d'écrire des guittines, parce que ce sont des lois très très précises, et des fois un petit vice de forme peut invalider le guet et faire que finalement il n'est pas valable. Et donc c'est une catastrophe parce que, comme on l'a expliqué, si le guet n'est pas valable et que cette femme croit que le guet est valable, elle se remarie à l'extérieur avec un autre homme, bien ses enfants seront chas v'shalom mamzerim. Donc il faut absolument que le guet soit écrit par un bedin compétent avec des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et nous dit le Hafetz Chaim qu'une femme qui est mauvaise dans ses idées, c'est-à-dire qu'elle renie donc la croyance en Dieu et la Torah, et elle n'est pas tsenoua, elle ne se comporte pas avec la tsniout, la pudeur des filles d'Israël. Et à plus forte raison, nous dit le Hafetz Chaim, si c'est avéré qu'elle ne va même pas au mikvé pour se purifier de son état de nida, c'est une mitzvah, c'est un ordre de la divorcer. Et cela s'applique en tout lieu et toute époque.